Auditeurs, auditrices, mais ceux et celles qui vont le devenir, bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Attitude Celtique avec Jeff pour vous faire découvrir quoi bien l'univers celte. Et suite à ça, on peut même dire, si pas une certaine chose, c'est voir une chose certaine, c'est qu'on ne naît pas celte, mais on le devient. C'est un peu la devise de mon émission et de l'émission de tout celte, c'est de devenir quelque part meilleur. Et à propos de meilleur, en même temps je fais un petit coucou aussi aux auditeurs de Radio Footfolk sur le web qui nous écoutent de plus en plus, merci à eux, et à tous ceux qui nous écoutent aussi ailleurs, cela va de soi. Je vous ferai découvrir aujourd'hui bien pas mal de choses, notamment on ira du côté de l'Écosse où les Vikings sont venus après le christianisme, aussi mettent un peu le bazar en Écosse. Et je vous rappelle que les Vikings, c'est ce qui désigne au sens moderne du terme un guerrier explorateur originaire de Scandinavie. Ça en dit long quand même, hein. Bon, mais ça c'est ce qu'on dit dans les livres. On partira aussi découvrir quoi ? Eh bien, que les Vikings, à propos, ont découvert 500 ans avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, ou mea culpa, avant Christophe Colomb, les États-Unis, enfin l'Amérique. Et ça c'était une découverte qui est absolument... corroborante, on en a la preuve, ça a été découvert ça, tout ça aux Pays-Bas, par des chercheurs. Et pour terminer, eh bien, je ferai un petit mot, un petit coucou à la Saint-Hubert, parce que là on est au mois de novembre, et pour être le 6 exactement, le 6 novembre, c'est la fête de Saint-Hubert. Et je vous ferai découvrir quoi ? Bien, un petit peu d'anecdotes de la ville de Saint-Hubert et de la région. Allez, pour commencer, eh bien, pourquoi pas une super chanson des Gaelic Storm, Another Stupid Drinking Song, baby, avec un tel sujet, un tel thème, ce qui veut dire une autre chanson à boire, stupide, idiote. Alors, c'est parti, puis on aura ensuite Celtic Festival avec un trio, puis Soldat Lui et Alan Stivell. Allez, à tout de suite.
Well, there's a pub down on the corner. It's packed on Friday night. The band is down in whiskey. They're getting pretty tight, and they're tuning up the fiddle. You know it won't be long before you're in the middle of an Irish drinking song. The stout is standing tall, it's whiskey one and all. Now we're on the rant and it's whiskey one. Since they open at a quarter after eight, a couple of fiends from Skibbereen, they're only talking shite. A pack of prats with hurly bats are spoiling for a fight. The stout is standing tall, it's whiskey one and all. Now we're on the rant and it's whiskey one and all. The slops and Martin's in the cellar, selling moonshine to the cops. Some langer down from Longford, he's trying to sing along. Well, you know you're in the middle of an Irish drinking song. Finished all the bourbon, so we started on the ride. And some old bint with a leery squint, she's given me the eye. She looks a little ragged, but it's nearly closing time. Three more pints and two more shots, I swear she looked just fine. The stout is standing tall, it's whiskey one and all. Now we're on the rant and it's whiskey one. Pints of Smithwick's, singing whiskey in the jar. I'm feeling paralytic, and it's bomb and lopsy pie. Well, I'm trying to tell the Garda that we did nothing wrong. Our lives are just the lyrics of an Irish drinking song. The stout is standing tall, it's whiskey one and all. Now we're on the rant, and the stout is standing tall.
quoi de mieux pour vous entraîner à découvrir l'Écosse ? Eh bien oui, mais bon, vous allez me dire, mais qui c'était ceux-là ? Eh bien, c'était le Pipe de Victoria Police avec The Links of the Fort and It Wasn't Castle Pretty Marion. Oh, je l'ai bien dit. Alors, je vais aller moins vite, je vais vous le traduire en français. C'est les liens de la suite, ou une suite de liens, du château d'Arringstone et de la jolie Marion. Avec un tel morceau, eh bien, ça met de l'ambiance quand même. Vous l'admettrez. Et à propos, ben, juste avant, il y avait un trio magnifique qu'il faut avoir dans sa CD Tech. C'est The Celtic Fiddle Festival avec le trio de Kevin Burke, Johnny Cunningham et Christian Lemaître. Vraiment, c'était... moi, j'aime bien ce qu'ils font. C'est un très, très bon album qu'il faut avoir. Et l'autre, ensuite, c'était en premier, c'était Gaelic Storm. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que Gaelic Storm, eh bien, ils ont eu l'idée de faire leur pochette de couverture de leur CD avec un chat et un chien en dessin. C'est Matching Switzers. Et si vous voulez, c'est vraiment grotesque. Mais j'adore, c'est hyper kitsch, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est Lost Again Records qui a fait l'album avec Gaelic Storm, à avoir aussi dans sa CD Tech. Bon, allez, partons découvrir maintenant l'Écosse sous la période des Vikings. Alors je rappelle que les Vikings, au sens moderne du terme, comme je l'ai dit en introduction, eh bien c'est tout simplement un guerrier explorateur d'originaire scandinave. Et il faut savoir que l'histographique traditionnelle de l'âge des Vikings, ou l'ère viking, est dans la période qui suit immédiatement l'âge de Wendel, ça se situe entre 793 et 1066 de notre ère. Alors je rappelle, Wendel est une épopée, une époque de Suède où s'étend environ de 550 à 793. Et c'est là où il y a des grandes invasions, et notamment avec l'âge du fer germanique, puis ça précède les Vikings. Et c'est dans la province d'Uppland où a été découvert en archéologie. Ont été faites des tertres funéraires du 5e, 6e et 7e siècle. Et c'est pour ça qu'on appelle le site Wendel, parce qu'on a pu, un peu comme Hallstatt, baser les dates des découvertes et notamment des périodes. Et c'est ce qui est bien. Alors partons découvrir ce côté viking. Alors on sait que c'est en l'an 794, en Écosse, qu'une chronique des moines irlandais fit pour la première fois état de l'invasion par des mers de hordes de païens ou des Eitvans, de farouches marins qui naviguaient sur des bateaux longs, alors en provenance de Norvège, et qui, d'après les habitants de la côte, eh bien, ravageaient tout sur leur passage. Alors de nombreux raids et clairs furent encore mentionnés dans les mois qui suivirent, principalement dans le nord et l'ouest de l'Écosse. Et l'année suivante, eh bien, des drakkars accostaient dans l'île de Iona. Et là-bas, eh bien, les Vikings s'emparèrent de tout ce qu'ils leur put même collecter, même aller piller les abbayes, et dans une grande partie du trésor de Sainte-Colomba. Et là, ils n'auraient peut-être pas dû, parce que il faut bien savoir que pour ces hommes qui n'étaient pas encore christianisés, les monastères étaient une aubaine, hein, parce que les objets en or incrustés de pierres rayées étaient toutes regroupées dans un seul lieu ou dans ces lieux, et qui n'avaient aucune signification pour eux. Ils ne connaissaient pas du tout ce que c'était que les symboles. Et lors de leur raid éclair, eh bien, les Vikings pouvaient aussi capturer les habitants qui avaient la mauvaise idée de se trouver sur leur route. Je ne vous dis pas le carnage. Et ils ramenaient ensuite tout ça en Scandinavie, avant d'aller parfois les vendre comme esclaves à Constantinople ou en échange d'épices ou de métaux précieux. Pourtant, au fil des ans, eh bien, ces hommes décidèrent de brûler les drakkars pour ne plus repartir. Alors ils prirent la souche en Écosse et devinrent fermiers. Et des maisons rectangulaires et non plus rondes, comme celles des Pictes, que je vous avais présentées il y a 15 jours, commencèrent à fleurir un peu partout dans les îles et surtout dans le nord du pays. Mais ça n'empêchait pas d'autres rois vikings comme Ivar ou Olaf de Norvège de continuer d'accoster parfois avec une véritable armée pour s'emparer les trésors des sanctuaires, voire même des châteaux. Et donc, en l'an 800, eh bien, environ 200 drakkars remontèrent le fleuve de la Clyde et attaquèrent la forteresse royale de la capitale de Breton à Dumbarton. Et le siège, lui, quant à lui, dura plus de 4 mois. Et les Vikings réussirent à capturer et à faire prisonnier le souverain breton et un certain Artgal. Pourtant, si tous les peuples d'Écosse, parce qu'il y avait pas mal de peuples d'Écosse qui ont tragiquement touché par cette vague nordique, eh bien, ce furent les Pictes qui en payèrent le plus lourd tribut. Et on peut lire dans les annales d'Ulster qui rapportent qu'en 839, ces païens, donc ces vikings, qui combattirent les Pictes en leur faisant subir une défaite écrasante, le roi ainsi que tous les héritiers furent massacrés sur le champ de bataille. Alors cet épisode s'avéra être une catastrophe pour les Pictes et qui ne s'en relèveraient jamais. Donc affaiblis, ils ne pouvaient désormais plus survivre seuls. D'où la disparition des Pictes, des quatre membres ou des quatre peuplades qui ont commencé à donner naissance à l'Écosse. Et à propos de naissance de l'Écosse, je vous propose moi de découvrir quoi ? Eh bien, pourquoi pas ? Je vous laisse la surprise, je vous le dirai après. Allez, à tout de suite.
Thank you. que ne meure, pour que ne meure l'âme de Bretagne, chaleur au cœur, simple et meneur, héros véridique, dans l'ombre ou donnant du bonheur. Bac, tout liberté armorique. Toujours là, malgré les ravages, sur ce rivage, avec harpe et bagages.
L'arme au cœur, l'arme au cœur, pêcheur, skipper, marin, sonneur, aventurier, héros véridique, libérateur et découvreur, Bac, tout liberté.
La hargne au cœur.
Vraiment le coup à écouter. Non seulement les paroles sont assez engagées et réalistes, et bien là vous avez reconnu quand même Soldat Lui, Alan Stivell et Renaud de Tressan qui interprétaient un morceau que j'ai choisi non pas par hasard, je vous le dis tout de suite, La hargne du cœur, la liberté armorique. Et bien entendu, c'est un des albums qu'il faut avoir dans sa CD Tech, comme d'habitude, tout ce qu'il y a sur Attitude Celtique. Eh bien, il faut les avoir avec vous et pour toujours. Bon, cela dit, partons découvrir maintenant une découverte assez intéressante que j'ai découverte sur le net. J'aime bien vous donner un peu d'informations parce que de nouvelles recherches menées aux Pays-Bas ont permis de dater avec plus de précision un établissement viking et où, eh bien, au Canada, qui confirme que ce peuple était déjà présent en Amérique du Nord en l'an 1021. Et on peut même dire que c'était une heureuse bizarrerie cosmique. Je m'explique. Bien que les Vikings, comme j'ai expliqué, soient connus pour avoir parcouru de vastes distances à bord de leurs emblématiques drakkar, et que des incursions dans de mystérieuses terres à l'ouest aient été décrites dans d'anciennes sagas, et ces récits avaient été considérés comme fantaisistes jusqu'à la découverte, bien entendu, d'établissements nordiques. Sur le site de Lance de Omedou à Terre-Neuve, et dans le cadre des travaux publics dans la revue Nature, eh bien des chercheurs de l'université, le 456, les chercheurs de l'université de Groningen ont réalisé la datation la plus précise à ce jour des structures, parce que les trois morceaux de bois étudiés présentaient une trace évidente de coupe et de tranchage par des lames en métal, un matériau que les Américains de Première Nation n'utilisaient pas à l'époque. Et donc leur datation précise a été rendue possible par une heureuse bizarrerie cosmique. Je m'explique. En 992, une tempête solaire, épique, a produit un signal de radiocarbone clair dans les anneaux ou les cernes des arbres. Et là, la nette augmentation de la production de radiocarbone s'étant produite, alors on situe entre 992 et 993, a été détectée dans les cernes d'arbres du monde entier. Et ça, c'est Michael Dee qui détaille ça, qui est bien sûr le principal auteur de l'étude. Alors, il explique encore que chaque échantillon de bois présentait ce signal radiocarbone 29 anneaux de croissance avant le bord de l'écorce de l'arbre, ce qui nous a permis de conclure que la coupe avait eu lieu en l'an 1021 de notre ère. Alors, tout ça avec Margot Kuntzems, qui est le co-auteur de l'étude, eh bien, ils ont pu en déduire pas mal de choses, notamment qu'il subsiste encore de nombreuses zones d'ombre concernant les incursions vikings sur le continent américain. Et bien sûr, l'ensemble, actuellement restreint parce que de preuves de leur présence suggérant une entreprise de courte durée et même un héritage culturel réduit, eh bien, les auteurs de l'étude estiment quant à eux que plusieurs établissements nordiques attendent encore d'être découverts. Alors on peut dire que des raisons mystérieuses, parce que c'est ce qui rejoint que les preuves botaniques de Lance au Meadow démontrent que les Vikings exploraient les régions situées bien plus au sud que leur colonie de Terre-Neuve, tandis que la saga islandaise, avec des histoires transmises oralement bien sûr, ayant par la suite été retranscrites, suggère quant à elle des rencontres entre ces derniers et les peuples indigènes du continent. Et le voyage jusqu'à ce site lointain aurait été même demandé aux intrépides explorateurs des semaines de navigation sur des mers bien et potentiellement violentes, hein, parce que c'est ce qui soulève la question suivante, pourquoi sont-ils partis? Alors, selon le Grønlandssaga, hein, donc les Vikings connaissaient déjà l'existence des Amériques au moment où ils ont entrepris de les atteindre, et un marin islandais du nom de Bjarni Arnljótsson, je ne retirerai pas deux fois, et son équipage aurait repéré l'Amérique du Nord alors qu'il dérivait dans l'Atlantique du Nord. Et plusieurs décennies avant que le célèbre marin viking Leif Erikson et son équipage n'atteignent ses côtes. On peut dire quoi ? Eh bien que ces dernières semaines, ils ont confirmé, via la carte du Vinland, attribuée aux Vikings, à considérer comme l'une des plus anciennes représentations de l'Amérique du Nord, était un faux. Tandis que l'étude d'un texte ancien suggérait que les Italiens avaient et déjà connaissance du continent en 1345. Et si vous aimez bien les histoires de ce style, il existe une carte que l'on nomme pas souvent, mais je veux parler de la carte de Perry Reis, qui est une carte ancienne, découverte en 1929, lors de la restauration du palais de Topkapi à Istanbul. Et alors elle est attribuée à l'amiral et cartographe ottoman Piri Reis, qu'il aurait tracé en 1513. Ce qui veut dire que 1513, il a fallu déjà remonter l'information, la mettre. Donc des cartes existaient bel et bien, beaucoup plus anciennes que l'on ne croit. Maintenant, il reste encore à prouver, à chercher, à trouver. Mais notez bien la carte de Piri Reis et l'histoire donc de ces Vikings qui étaient déjà, en 500 ans avant Christophe Colomb, déjà au Canada. Allez, à propos de Canada, non, on va pas aller faire un tour du côté du Québec, ni de là-bas, mais on va simplement, écoutez, là, juste avant, eh bien quoi, ben c'était quoi? Il y avait nos amis Alan Stivell et Soldat Lui, et ben écoutez, vous allez comprendre, c'est un beau morceau, on va réécouter un morceau d'origine écossaise, je n'en dis pas plus, mais c'est un album qu'il faut avoir, c'est Choice Language. Et c'est A Dawn A Day, un beau morceau qu'on n'entend pas souvent, alors je l'ai choisi pour vous, c'est Capercaï. À tout de suite.
Kalakuna kotiken, 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 kalakuna kot کلاکلی بگواری کلاکلی هلی کیین باش چما فکچار کلاکلی هلی کیین کلاکلی بگواری
Oh
je ne m'en mêle pas les pinceaux, j'ai oublié de vous désannoncer Beoga, ce fameux groupe irlandais qui a la particularité de faire un mélange musical assez étonnant, assez hétéroclite. Moi, j'apprécie bien ce groupe et ils ont vraiment la classe. C'est vraiment des gens à aller voir en concert. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit ça. Ensuite, eh bien là, vous avez entendu, notamment, il y avait Capercaillie avec A Dawn of Day, un morceau qu'il faut avoir dans sa panoplie d'instruments et surtout de groupes dans sa CD Tech. Et je dirais aussi même qu'il faut aussi avoir Evia avec Taramundi 130. Alors Taramundi, c'est un petit village, une petite ville dans les Asturies. Et où il y a à peu près 650 habitants, donc c'est dérisoire. Mais c'est une superbe région dans les Asturies. Ça vaut le coup. Taramundi, Evia. Bon, et à propos d'Evia et de Taramundi, eh bien chez nous, on a une vedette. Un peu comme Saint-Erwan en Bretagne. Eux, ils ont Saint-Erwan, c'est-à-dire Saint-Yves. Eh bien nous, on a Saint-Hubert. Alors, il faut dire que Saint-Hubert, qui était évêque, il est né à Huy, troisième évêque de Liège. Et en wallon, on dit Hubert ou Hubert et Hubert. Et Liège possédait une paroisse de ce nom qui a été fondée par Aubert en l'an 1409, patron des bons métiers liégeois, et surtout des pelletiers, des verres choyers, des fondeurs aussi, des jeunes arbalétiers, et protecteur des églises de Pont et de Xoffret, près de Malmedy. Et notamment, à Landenne, à Pelaine, on bénit des petites miches rondes et aplaties nommées des merzels, qu'on donne en nourriture aux personnes et aux animaux domestiques. Et à Tournai, par exemple, au sanctuaire de Saint-Piat, eh bien, il est aussi honoré à Huy, à l'église Saint-Denis, où on vient prier de retour du pèlerinage au sanctuaire, bien sûr, les fameux Ardennes wallonnes. Et on invoque encore pour les troubles de l'esprit. Par exemple, les possédés, les obsédés, les maléfices, les hystériques, à Burdine notamment. Et en tant que pèlerinage, et bien les processions, les bénédictions des miches nommées des Cooks à Haute-Huillère, ça c'est à Merble-Château, et à Malonne, après la messe, et bien le prêtre bénit les poires, l'avoine, le blé et autres céréales. Et quant à Namur, par contre, à la grande messe, on partage le pain béni et on le mange à jeun pour être préservé de quoi ? Eh bien de la rage. Et on croit même que ce pain ne se corrompt jamais. Alors il y a aussi un sanctuaire des Ardennes afin de préserver de la rage. Les personnes qui ont été mordues par les chiens, par exemple, suspects, eh bien prêtent leur fait une petite entaille dans le front. Et donc le curé fait ça, une petite entaille, pouf, hop. Et alors il y introduit quoi ? Il y introduit un fil détaché de l'étole du sein, du grand sein, puis referme la plaie avec un emplâtre. Et cette opération se nomme la taille. Tandis qu'à Liège, eh bien, en l'église Sainte-Croix, eh bien, le prêtre, quant à lui, brûle une petite circonférence dans le poil de la tête du chien. Et ça, on retrouve ceci à Saint-Hubert. Parce que c'est à Saint-Hubert, le 3 novembre, que dans la ville du même nom, que l'on pouvait venir en pèlerinage afin de se prémunir de la rage. Mais l'on pouvait même également protéger ces animaux en les faisant arrêter. C'est-à-dire qu'à l'époque, cette bénédiction spéciale se faisait pour 9 francs, hein, à l'époque, 9 francs, 9 francs. Alors on voyait le curé apposer sur le front de l'animal une espèce de poinçon en bronze chauffé, ce qui le préservait lui aussi de la rage. Et il y a d'autres choses comme ça, d'autres coutumes. Par exemple, à Aubel, les jeunes gens offrent des petits pois de sucre à leur fiancée, à la Saint-Hubert. Et vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport ? Eh bien, c'est qu'il y avait quand même un pèlerinage. Alors, jadis, au bon pèlerinage à Saint-Hubert, exigeait l'observation d'une condition minutieuse déterminée par les coutumes et par la coutume. Alors, écoutez bien, vous allez essayer de faire ça la prochaine fois que c'est à Saint-Hubert. Il était commandé, premièrement, de se confesser, de communier et de payer le prix d'une messe au sanctuaire des Ardennes, c'est-à-dire à Saint-Hubert. Alors ensuite, vous deviez vous coucher seul pendant la neuvaine dans des draps blancs et nets, sinon de coucher tout vêtu. Ensuite, on ne dormira pas dans un lieu où se trouve une chèvre. Même boire toujours dans un récipient, verre, tasse ou coquillage, mais jamais directement à la fontaine ou au robinet. On peut boire du pur vin rouge, mais le vin blanc devra être coupé avec de l'eau fraîche. Et tous les aliments doivent, bien entendu, être pris froids. On peut manger du porc, mâle, du chapon, de la poule, mais ces animaux doivent être âgés d'un an au moins, au minimum. Et on peut prendre du poisson, mais à écailler seulement, les œufs, mais cuits durs, avec un peu de sel. Et on peut se laver les mains et se frotter le visage avec un linge frais, mais on ne peut pas se raser. Il est interdit de se peigner pendant la quarantaine, la neuvaine y compris. Et on ne consommera ni lait, ni fromage de chèvre, ni fruits, ni jus, ni sauce, ni acide quelconque. Le dixième jour, eh bien, on fera délier le pansement par un prêtre, puis on brûlera le linge dont on jettera les cendres dans la piscine. Alors ensuite, on promettra de faire abstinence de chair chaque année le jour de la Saint-Hubert. Eh bien, je voudrais vous y voir maintenant si tous les chasseurs respecteraient cette quarantaine ou ce pèlerinage à Saint-Hubert. Il n'y a pas que les chasseurs, hein. Mais comme c'est le patron de la chasse, eh bien, pour rendre hommage à tout ce monde, même si on n'aime pas, il y a quand même toute une culture qui s'est installée derrière et des gens qui respectent, tant mieux. Et moi, je suis de cette idée-là. Je suis que pour le respect des traditions, des coutumes, il faut vénérer encore nos anciennes coutumes. Je ne dis pas que je vais faire ça à la Saint-Hubert, mais j'ai pris note. J'en ai pris note. Alors, je vous propose de découvrir quoi ? Eh bien, des musiciens de la Forêt Royale de Saint-Hubert, avec la Saint-Hubert Coucou, un très beau morceau de trompe. Alors je vous rappelle, la trompe, il ne faut pas l'oublier, c'est un instrument qui fait 4 mètres à peu près passé de longueur. C'est grandiose, le tuyau, pff, la trompe. Et on peut même dire quoi ? Eh bien, que juste après, eh bien, il y aura notre ami Alan Stivell, tiré de son album un très beau morceau. Allez, à tout de suite, voici les musiciens de la Forêt Royale de Saint-Hubert avec le coucou, Saint-Hubert coucou. À tout de suite.
Thank you.
C'était en douceur que l'on disait au revoir à Alan Stivell. On le retrouvera bientôt, bien entendu. Moi aussi, je vais vous dire au revoir. Le temps passe vite. Et je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par les histoires de légendes et des choses comme ça, eh bien, il y a un super livre qu'il vous faut avoir ou découvrir. C'est le livre de Michel Elsdorf et de Rodolphe de Boissage. Ça vaut vraiment le coup. C'est Wallonie d'autrefois au fil de l'an. C'est là-dedans que je vais chercher quelques références pour vous faire découvrir ce qu'est la Wallonie. Il faut en être fier, je suis de Gaume, mais la Wallonie a fait quand même énormément de choses. Ça, j'en parlerai plus tard quand j'aurai fini avec l'histoire de l'Écosse. Je vous parlerai un peu de la Wallonie. Et notamment, même si je ne me sens pas 100% wallon, loin de là, hein, mais il y a du bon, du très très bon. Hein. Bon. Allez, sur ce, là, c'était Alan Stivell avec Au-delà des... au-delà des limites, près, au plus près des limites, pardon. Voilà, je vous propose moi, de découvrir un artiste, Abadji, Al-Hasifa, qui est tiré de son album Nomad Spirit de 2005. Splendide musique, splendide accord, vous allez comprendre. On passe au-delà de la mer, on va vers le sud, et vous allez comprendre. Alors mettez un peu le volume et vous allez entendre. C'est des morceaux que je ne passe pas souvent, mais ça vaut vraiment le détour, et ils font partie de cette culture celte. En attendant, les amis, Kenavo, Kenavo Avéchal, portez-vous bien, soyez heureux, partagez le bonheur autour de vous, devenez celte. À bientôt, les amis.
ليس كل ما يعلم ليس كل ما يعلم.